Et la question que nous vous posions hier était la suivante. Israël a-t-il, selon vous, eu raison de lancer son opération à Rafah? Alors, Lise, avons-nous une idée de ce que les auditeurs en pensent? À mon avis, ça doit être partagé ou bien c'est tranché? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est partagé, mais j'imagine que c'est tranché.
Alors là, je ne donne pas mon avis, Didier. J'essaye de trouver la réalité des votes. On est à 88% de oui.
Ah, c'est tranché.
Elle a eu raison. Ça, c'est le résultat sur Insta et sur X. Je vais vous le donner tout de suite si ça veut bien avancer. La technologie, ça marche toujours quand ça veut. Sur X, quel était le pourcentage? Moins important, 57% de oui, seulement pour 43% de non. Ça, c'était sur X. On va évidemment demander son avis à notre expert, Meir Daon, colonel de réserve de Tsahal. Bonjour à vous.
Bonjour Lise, bonjour Didier.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors Meir Daon, moi, je pense que je connais votre réponse. Israël a-t-il eu raison de lancer son opération à Rafah?
Israël n'avait aucun autre choix que de le faire. Malheureusement, ça se fait en puissance réduite, très très réduite, mais on est là et ça commence, c'est un début. Et il faut comprendre que c'est une démarche obligatoire, car le côté de l'axe Philadelphie, c'est le côté vital pour nous de le bloquer et de faire en sorte à ce que les tunnels ne fonctionnent plus là-bas, ni le passage vers l'Égypte.
Alors, Meir Daon, donc le passage vers l'Égypte depuis hier, il est dans le contrôle des Israéliens. Mais on imagine tout de même que cette opération à Rafah ne va pas s'arrêter là.
Vous savez, ça dépend. Tout d'abord, ça ne doit pas s'arrêter là. Okay, il y a l'axe Philadelphie à occuper tout le long des 12 kilomètres qu'il a. Ça, c'est obligatoire. Okay. À côté de ça, il y a des négociations que je vois pas qui peuvent aboutir, mais disons que ça aidera beaucoup à arriver à une solution finale de ce sujet. Car il faut comprendre, je le dis pour que les audiences comprennent. Le Hamas a une seule volonté, c'est de se reconstruire et à la bande de Gaza et reprendre le contrôle. C'est son seul objectif. À aujourd'hui, il n'a aucun moyen de pouvoir le faire, sauf les otages. Sa seule protection, c'est nos otages. Il n'a rien d'autre. C'est-à-dire que s'il continue la négociation, et la négociation aboutit par la libération des otages, qu'est-ce qu'il lui reste? Rien d'autre. C'est pourquoi il insiste à l'arrêt total, à l'engagement de l'arrêt total des combats et l'évacuation des forces israéliennes. OK? Ces deux choses-là, l'arrêt total des combats et l'évacuation de l'armée israélienne de là-bas, ne peut pas arriver. C'est impossible que ça arrive. Ça nous ramènera de retour au 6 octobre.
Oui.
Alors, quel est l'objectif? Quelle est la seule solution qu'il peut y avoir? C'est peut-être une pression militaire forte qui fera qu'ils verront qu'ils n'ont pas d'autre choix mais de négocier leur sauvetage et sortir de la bande de Gaza sous certaines protections, aller à Qatar ou à Istanbul ou je ne sais pas où, le temps pour nous pour les avoir dans un an, deux ans, trois ans. Et on va les avoir. C'est la seule solution. C'est pourquoi on peut parler autant qu'on veut. Il ne peut pas lâcher les otages. Il ne peut pas. Pour lui, les otages, ça veut dire... C'est comme si vous donnez un pistolet avec une seule balle et vous lui dites « mettez la balle dans votre tête et on parlera après ». Il n'y a pas un autre moyen.
Oui. Alors, les États-Unis...
Je le dis avec beaucoup de douleur, je le dis.
Je sais. Dans le même temps où le président américain prononçait son discours à l'occasion de Yom HaShoah, qu'il répétait qu'il n'oublierait jamais ni les atrocités de la Shoah ni celles du 7 octobre, qu'il déplorait l'augmentation de l'antisémitisme, il a tout de même retardé la livraison de bombes à Israël. Est-ce que selon vous, Meir Dahan, ça a une véritable incidence dans la guerre qui est faite aujourd'hui?
Je vais vous dire quelque chose. Le seul incident, c'est le fait que ça a été dit. C'est le seul incident. Parce que physiquement, réellement, je ne crois pas qu'il y ait un ralenti de quoi que ce soit. Et ça m'étonnerait qu'il y aura un ralenti de quoi que ce soit. Ils se chamaillent entre eux, Biden et Netanyahou, sans arrêt. Et peut-être qu'il a un peu raison, Biden, peut-être que non. Il faut comprendre que derrière les coulisses, les choses se passent autrement. À côté de ça, il y a une politique interne des Américains, de Biden surtout. Le parti démocratie américaine bénéficie d'une opposition hostile à Israël et très forte. Il est dans une année électorale où il doit prendre ça en considération. Et puis, il dit ce qu'il doit dire pour la presse. Réellement, les choses se passent autrement. Ok, et ça m'étonnerait que les Américains vont prendre une décision pareille, parce que tout simplement, ils vont, vous savez, deux genres de bombes ne font pas la différence dans une guerre, surtout ce qui concerne la bombe de Gaza. Ok, et là aussi, j'appelle les audiences à prendre une proportion. Et la bombe de Gaza, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, la bombe de Gaza, ce n'est que la bombe de Gaza. C'est-à-dire qu'en cas d'une guerre réelle et générale, sur plusieurs frontières, disons le Liban, la Syrie, et peut-être plus loin, la bande de Gaza, si on devra mener cette guerre sans prendre trop de précautions, c'est une guerre de 4-5 jours. Malheureusement, à la bande de Gaza, il existe aujourd'hui 2 millions d'otages. Peu importe quelle est leur position et leur opinion, je ne cherche pas des adhérents, surtout pas là-bas. Mais si on devra mener une guerre agressive comme une guerre se fait, la bande de Gaza mérite 4-5 jours de guerre et puis c'est tout. Alors, le Rafah, c'est une toute petite partie de la bande de Gaza, mais fait. Et nous donne l'occasion de cercler complètement la bande de Gaza et enfin arriver à une situation où on peut gérer quelque chose je dis pas normal, mais quelque chose qui peut avoir un certain avenir. Je sais que derrière toutes ces négociations, il y a quelque chose qui prend forme de plus en plus, et Israël négocie avec les Américains, bien sûr, l'arrivée des unités des internationales de côté de l'Arabie Saoudite, les Émirats et les autres dans la région, qui vont envoyer des forces, peut-être jointes aux autorités palestiniennes, pour se mettre en place et gérer cette région de la bande de Gaza. Ça, c'est la solution, d'ailleurs, que je le dis il y a 5 ans. C'est la seule solution. Mais concernant les négociations qui se font aujourd'hui avec le Hamas, ça n'aboutira à rien du tout. Ça ne peut pas aboutir. Il n'a rien d'autre que les otages. Rien d'autre. Sincèrement, vous voyez, une proposition telle qu'il a envoyée avant-hier, ça veut dire quoi? Libérer 33 otages en vie ou mort, ça veut dire quoi? Que demain matin, il leur mettrait une balle dans la tête, il nous envoie 33 cadavres? Quelle est cette. C'est-à-dire, c'est vraiment incroyable. À côté de ça, on voit une vague, vous savez, on voit des manifestations so-called pro-palestiniennes. Les manifestants ne savent même pas pourquoi ils manifestent. C'est de l'antisémitisme pur et simple. Et je vous le dis, 2 jours après la commémoration de l'Holocauste. L'antisémitisme est là, n'a jamais lâché, et c'est à nous de se défendre, et grâce à Dieu, on le fait, et on le fait très très bien. Vous savez, Lise, excusez-moi de rallonger, mais avant-hier, j'étais à Kerem Shalom pour lâcher une partie de mon unité, et j'ai vu tous les jeunes là-bas. C'est à pleurer de les voir. Des jeunes courageux, ambitieux, engagés, qui savent très très bien de quoi ils sont là, ils sont là-bas, et qu'est-ce qu'ils vont faire, et pourquoi ils vont le faire. Ils savent qu'ils défendent leur maison, leur famille, leur peuple. L'époque où le juif prenait une claque et se pliait et se cachait est finie. Aujourd'hui, avec fierté, on porte nos uniformes et on lutte. On se bat. Et malheureusement, il nous reste encore des années de lutte à faire parce que l'antisémitisme, elle est là. Elle est partie nulle part.
Oui, il a même aggravé beaucoup depuis le 7 octobre.
Il n'a pas aggravé, elle s'exprime plus. Elle a toujours été de telle ampleur. La seule défense du peuple juif, c'est en Israël, par les Israéliens. Pointe à la ligne. On doit le comprendre. On doit comprendre que c'est ça ce qui nous attend. Et surtout, surtout, surveiller qu'on reste fort et gagnant tout le temps. Avec les Américains, sans les Américains, avec les Européens, sans les Européens, on doit garder notre indépendance fort et stable.
Est-ce que c'est possible, voilà. Mirdan, quand on est un si petit pays, justement, d'être totalement indépendant? On l'a vu, par exemple, dans l'attaque avec l'Iran, même si on avait une très bonne riposte, tout de même, on a été aidé.
Est-ce que vous connaissez un pays dans le monde qui est totalement indépendant, sauf le Corée du Nord? Je ne connais pas. Il n'y a aucune. On est tous dépendants l'un de l'autre d'une façon ou d'une autre, et d'un volume ou d'un autre. À nous de prendre les... C'est vrai que ces dernières années, ces derniers 15-20 ans, on a lâché notre production interne, d'une façon trop importante, malheureusement. Mais je vous rappelle que le Chet, c'est le Kela David, et le Kippa de Barzel, et tous ces genres de choses qui ont été inventées par Israël. C'est vrai qu'on dépend des Américains, mais ils dépendent de nous aussi, de certaines façons. Et je ne vois pas les choses aller trop loin. On a déjà eu des passages très durs avec les Américains, je vous rappelle, en 67, en 73, en plus loin, où il y avait un ministre des Affaires étrangères qui a envoyé son numéro de téléphone, appelez-moi quand vous êtes d'accord avec ce que je dis. On a eu des passages. Il y a eu de hauts et des bas, mais les liens sont très profonds. L'appréciation, d'ailleurs, militaire et morale font une base d'entente très, très, très importante entre le peuple américain et le peuple israélien. Et ça, aucun président ou premier ministre israélien ou américain peuvent le démonter.
Alors, et on espère
aussi...
On va
avoir un moment dur. On ne doit pas toujours servir les intérêts des autres. On doit reconnaître nos intérêts et lutter pour nos intérêts, parce que, vous savez, j'ai entendu une fois Ariel Sharon nous dire, j'ai eu l'honneur d'être présent, qui nous a dit, aujourd'hui, avec les Arabes, nous sommes à 8-0. Et ça va être 9-0, 10-0, 15-0. Mais si, par malheur, il va y avoir 15-1, il n'y aura pas 15-2. Et ça, on l'a vu le 7 octobre. Qu'est-ce qui se passe quand ils mettent leur pas en Israël? On a vu exactement l'atrocité. On a vu exactement à qui on a affaire. Alors, on doit compter sur qui?
Merci beaucoup pour votre expertise et à bientôt, parce que je ne crois pas que la guerre va s'arrêter demain matin. Bonne journée à vous, Meir. Merci. Alors,